Yeah.
I'm Buffy, the vampire slayer, and you are?
I'm the doctor.
Challenge accepted.
Is that the phone box? The bigger on the inside.
Where is that?
Alright, I see what you're trying to do, but it's not gonna work.
I'm ashamed of my living situation. We were on the break!
Vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier 102.2. Moi, c'est Sarah et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Feuilleton Sociologique, l'émission qui parle de sociaux et de séries télé. Aujourd'hui, notre train voyagera sur la côte foucauldienne. On parlera de l'effet Lucifer, d'institutions totales, de cartes de baseball, mais surtout d'une série qui a remis le tatouage à la mode, Prison Break. En 1971, à l'université de Stanford aux États-Unis, une annonce apparaît dans un journal. Besoin d'étudiants masculins pour participer à une étude psychologique portant sur la vie en prison. Rémunération de $15 par jour. Pour plus d'informations, adressez-vous à l'université, salle 248. Sur 70 candidats, après une sélection par des tests d'aptitude physique et mentale, 24 sujets sont sélectionnés pour participer à l'expérience. Sur le papier, ça paraît simple. Dans le sous-sol de l'université, une équipe de chercheurs en psychologie sociale va créer une simulation de prison. Ils vont recréer un environnement carcéral avec des cellules et une salle de contrôle, dans lesquelles ils vont installer tout un équipement de surveillance pour pouvoir visionner tout ce qu'il s'y passe. Les sujets vont être divisés en deux groupes, de manière aléatoire. Les prisonniers d'un côté et les gardiens de l'autre. La seule consigne qui leur sera donnée sera simplement de jouer leur rôle pendant 2 semaines. Et pour rendre l'expérience la plus réaliste possible, les chercheurs ont tout prévu. Un matin, sans prévenir, une équipe de police vient chercher les futurs prisonniers chez eux et leur fait subir une procédure de fichage complète. Empreintes, photos, fouilles, menottes, la totale. Avant de les emmener en prison, où on va les déshabiller et les désinfecter avec des produits anti-poux. On leur donne leur nouvelle tenue, blouse blanche, pas de sous-vêtements, tongs, chaînes aux chevilles et on leur attribue des numéros de prisonniers. Tous ces éléments de mise en scène visaient d'abord à déstabiliser les sujets, les désorienter, leur imposer une tenue inconfortable pour accentuer le malaise, et surtout les dépersonnaliser, en les privant de leur nom et de leur identité. De l'autre côté, on fournit aux gardiens leur équipement, matraque en bois, uniforme kaki et lunettes de soleil. L'arrivée des gardiens dans l'expérience se fait différemment de celle des prisonniers. Ils ont le droit à une réunion d'information avec l'équipe de chercheurs qui leur dit seulement qu'ils n'ont pas le droit à la violence physique, mais que le bon fonctionnement de la prison est de leur responsabilité. Et là, c'est le début du cauchemar. J'ai pas envie de vous spoiler tout ce qui s'est passé dans le sous-sol, mais en gros, les gardes sont devenus complètement sadiques et les prisonniers sont soumis et traumatisés. À tel point qu'au bout de 6 jours seulement, on a dû arrêter l'expérience. Cette histoire est devenue super célèbre. Elle a eu un écho scientifique et médiatique de dingue. Et en plus des documentaires et vidéos YouTube, elle a été adaptée dans plusieurs films, dont certains qui sont pas trop mauvais et que je vous invite à aller découvrir. Mais alors Sarah, pourquoi est-ce que tu nous parles de tout ça si tout est déjà sur YouTube ? Patience, je ne suis pas encore arrivée à la partie que je préfère. Partie que je vais appeler « Analyse scientifique et controverse », parce que ça fait un peu mystérieux et que ça fait planer le suspense. Qui est à l'origine de tout ça et pourquoi avoir fait cette expérience ? Eh bien, il faut remercier le professeur Philippe Zimbardo, enseignant et chercheur en psychologie sociale à l'université de Stanford. C'est lui qui est à l'origine de l'expérience, il l'a imaginée, conduite, surveillée et gérée jusqu'au bout. Et plus encore, il faisait carrément partie de l'expérience lui-même puisqu'il jouait le rôle du directeur de la prison. Mais alors, dans quel but ? Vous vous doutez bien qu'il s'est pas juste levé un matin et qu'il s'est dit « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de créer une prison sur mesure et y enfermer des gens. » Bon, ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais plus sérieusement, le but de Zimbardo, c'était de démonter une théorie psychologique qui faisait un peu référence dans le milieu à partir des années 50. C'est l'école de Francfort et notamment le sociologue Théodore Adorno qui en est à l'origine. Alors, selon lui, il existerait une personnalité autoritaire. Ce serait un certain nombre de traits de caractère, de valeurs, d'attitudes individuelles qui créeraient des personnalités dites autoritaires et qui pousseraient certaines personnes plus que d'autres à avoir des comportements fascistes, antidémocratiques et intolérants. En gros, ce que ça sous-entend, c'est qu'il existerait un type de personnalité violente et que ce serait donc un trait de caractère qui pousserait les gens à avoir des comportements violents, agressifs ou sadiques. Et Zimbardo, bah, il n'est pas d'accord. Selon lui, ce serait plutôt la situation, le contexte, l'environnement qui sera à l'origine de ces comportements. C'est ce qu'il a appelé l'effet Lucifer. Du coup, pour le prouver, il a mis des personnes ordinaires dans un environnement particulier pour étudier si leur comportement changeait et se retrouvait à l'opposé des valeurs qu'ils avaient exprimées avant de faire l'expérience. Et c'est pour cette raison, par exemple, que les rôles étaient attribués au hasard, sans prendre en compte les personnalités originelles des sujets. Même si je ne suis pas rentrée dans les détails, je vous ai quand même un peu soufflé le résultat de l'expérience. Zimbardo a prouvé qu'il avait raison. Chaque sujet a complètement intégré son rôle. Les gardes sont devenus sadiques et les prisonniers ont adopté des comportements de détresse et de soumission. Vraiment, l'histoire, elle serait pas assez croustillante si elle s'arrêtait là. Je vous ai parlé de controverses tout à l'heure. En fait, si l'expérience de Stanford est aussi célèbre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des chercheurs qui se sont battus pour prouver que l'expérience était faussée. On parle de mensonges, de trucages. Moi, je préfère appeler ça des biais. L'expérience était biaisée. Le résultat était en quelque sorte déjà prévu d'avance, notamment parce que la méthodologie de Zimbardo était un peu douteuse. Je vous ai dit que les chercheurs n'ont donné aucune indication au sujet, pour ne pas les influencer ou leur souffler les réponses. C'est pas que je vous ai menti, c'est parce que c'est la version officielle que Zimbardo a publiée. Sauf que, bah, en fait, en fouillant un peu plus, des chercheurs ont trouvé des preuves qui indiquent que les sujets étaient complètement influencés par le professeur et son équipe, qu'ils savaient très bien ce qu'on attendait d'eux, et qu'ils n'avaient rien de naturel dans leur comportement. Les résultats étaient donc biaisés. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que le résultat de l'expérience, il n'est pas intéressant? En fait, en essayant de prouver quelque chose, Zimbardo, il s'est retrouvé à prouver complètement autre chose. Est-ce que vous avez entendu parler de l'effet de Milgram? C'est aussi une expérience de psychologie qui est devenue très célèbre. Elle a fait l'objet de documentaires, de vidéos et même d'un faux jeu télé. En gros, cette expérience, elle évalue le degré d'obéissance d'un individu face à une autorité qu'il juge légitime. Alors, autorité légitime, pourquoi? Eh bien parce que la personne va peut-être arborer des signes de cette autorité. Par exemple, un uniforme, une blouse blanche, des diplômes, peu importe ce que c'est, tant que c'est reconnu comme étant un symbole de légitimité et qui va pousser le sujet à avoir confiance en son jugement. Et donc, quand le sujet va recevoir un ordre de sa part, il va l'exécuter, quand bien même cet ordre le pousserait à réaliser une action qui, éthiquement, serait contraire à ses valeurs. Ça va permettre d'analyser le processus de soumission à l'autorité. Et en général, ces ordres posent de véritables problèmes de conscience. Est-ce que ça y est? Ça a fait-il dans mon cerveau? Au final, Zimbardo a juste confirmé l'expérience de Milgram. Bon, c'est dommage qu'autant de moyens aient été mis en place pour juste confirmer la théorie d'un autre, mais en science, et en sciences sociales aussi, on n'a jamais assez de vérifications. Donc c'est pas grave, on prend quand même. Au final, le comportement des sujets dans cette expérience n'était que des réponses aux attentes des chercheurs, qui faisaient office d'autorité légitime. En sachant pertinemment ce qu'on attendait d'eux, les sujets se sont donc comportés comme tels. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, je pense que vous l'aurez compris maintenant, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la prison. Et si j'ai choisi de commencer par vous parler de cette expérience, c'est parce que Zimbardo s'est devenu un peu un expert en la matière. Il se trouve que peu de temps après son étude, des émeutes éclatent dans différentes prisons des États-Unis. Les revendications des prisonniers concernent d'une part leurs conditions de détention. Ils exigent une meilleure nourriture, l'accès à des soins médicaux, à du papier toilette, à l'éducation. Et d'autre part, elles dénoncent les mauvais traitements qu'ils subissent, l'isolement, le racisme des gardiens et aussi les violences physiques qui ont notamment conduit à certains décès. C'est toute une remise en cause de l'institution carcérale qui se déclenche. Et Zimbardo, il va être projeté sur le devant de la scène. Il va même jusqu'à proposer son étude à la Commission européenne de la justice en disant « En gros, regardez, je vous ai prévenu, la prison ça fait faire des dingueries aux gens, c'est pas bien. » Bon, en réalité, il a pas vraiment dit ça, enfin, pas avec ces termes, pas avec ces termes-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est que Zimbardo s'est un peu servi de ses mutineries pour donner un gros coup de pouce à la médiatisation de son étude. Mais c'est en 2004 qu'il va vraiment faire le tour des plateaux télé à la suite du scandale d'Abu Ghraib. Abu Ghraib, c'est une ancienne prison qui se situe à Bagdad. Pendant la guerre d'Irak, ou plutôt pendant l'invasion de l'Irak de Saddam Hussein par les États-Unis, l'armée américaine se sert de ce complexe pénitentiaire pour y enfermer des détenus irakiens. En 2003, des rapports d'Amnesty International révèlent le scandale. Les conditions de détention à Abu Ghraib sont tout bonnement inhumaines. L'armée américaine et plusieurs agents de la CIA vont être accusés de violation des droits de l'homme parce qu'ils ont créé un centre dans lequel ils torturaient et tuaient des prétendus prisonniers. Et Zimbardo va se mêler de cette affaire. Et ce qui peut paraître assez surprenant au départ, c'est qu'il va se ranger du côté des militaires. Il va notamment témoigner en tant qu'expert au procès d'un d'entre eux. Et sa défense est la suivante. C'est injuste de punir les gardiens. Certes, ils ont commis ces crimes, mais ils n'ont pas choisi de le faire par sadisme. Ce n'est pas des psychopathes. Ce sont les conditions dans lesquelles ils faisaient leur travail qui ont conduit à ces résultats. En gros, ce qu'il dit, c'est que pour rendre véritablement justice, il ne faut pas s'attaquer individuellement aux coupables directs de l'affaire. Il faut, d'une part, corriger le système militaire et carcéral qui a provoqué de tels comportements. Il dénonce notamment le manque de sommeil des gardiens, l'insécurité, l'absence de supervision dans un contexte aussi difficile. Et d'autre part, il faut punir les vrais responsables de cette affaire, soit les dirigeants qui ont commandité une telle mission. On apprend notamment, durant le procès, que le Pentagone est informé de tout ce qui s'est passé. Le postulat de Zimbardo, c'est que les êtres humains sont naturellement bons. C'est leur environnement qui les pousse à la violence. Il va même plus loin, il accuse directement le président Bush, sa politique et sa gérance des conflits militaires internationaux d'avoir créé la situation générale qui a conduit à de tels actes. Je suis consciente que ce sujet est matière à débat, mais comme tout ce que j'essaie de vous raconter ici, je ne porte aucun jugement de valeur à ces théories. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est vrai, que c'est bien, que c'est juste. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'on peut faire avec ces postulats. Cette idée de penser que c'est le système dans lequel les individus sont contraints d'agir qui provoque ses propres nuisances, eh bien, elle va être présumée par beaucoup de sociologues qui vont essayer d'étudier des phénomènes en prenant en compte les systèmes dans lesquels ils se trouvent. Et ils vont en analyser les liens, les rapports, les conséquences. Et il se trouve que la prison, en tant qu'objet d'étude, c'est une pépite sociologique. Mais avant de rentrer dans le dur du sujet et de vous embêter un peu avec mes sociologues préférés, il est temps de vous introduire à la série du jour.
Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir.
J'ai pas le temps. Mon esprit vise ailleurs.
À chaque nuit qui nous poursuit, l'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au pied du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière, un écho. Et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux?
J'ai pas le temps.
J'ai pas le temps.
S'en sortir,
écoute. C'est si loin que la lumière semble s'éteindre. Seule une étincelle au fond de moi peut l'atteindre. Au bout, c'est ma zone et j'en ressens les limites. Des prisons libres me dictent ma ligne de conduite. Les dés sont jetés, rien n'est joué. Même le sort retient son souffle, piégé dans un sablier. J'ai décidé de ne pas être prisonnier. Je n'ai que ma vie à offrir si jamais j'échouais. Pas de choix, faut y aller. Même si dans mon horizon les visages semblent trop résignés. Je vole vers mon but sans bruit ni adieu. J'ai brisé mes peurs et pour ma peine, dis-leur que s'en sortir, écoute. Ouais, à chaque choix on parie contre le sort. Ouais. Et si les jeux sont faits, y'aura pas de remords. Et c'est la retournée, j'apprends à vivre. Yeah. À être libre, rester lucide. Yeah. Non, je n'ai rien à perdre. Fixe mes règles dans mon univers. Et à chaque bouffée d'air, j'opère comme si c'était la dernière.
Y'aura pas de rédemption à venir. La volonté est la clé de la réussite.
Si je dois exceller, tout donner, prendre ce que je veux. Si le monde m'appartient, restez pas au milieu.
Et si le sort est contre moi, c'est tant pis.
On fait des plans pour s'en sortir, écoute. Pas le choix, faut y aller.
J'ai pas le temps.
J'ai pas le temps.
Mon esprit mis ailleurs.
Pas le choix, faut y aller.
J'ai
pour s'en sortir.
J'ai pas le temps.
J'ai pas le temps.
Mon esprit mis ailleurs.
pour s'en sortir. Écoute.
Bienvenue dans Prison Break, une série américaine diffusée entre 2005 et 2009 par la Fox. 90 épisodes de 43 minutes répartis en 5 saisons avec une moyenne de 10 millions de téléspectateurs aux États-Unis et qui arrive en 2007 sur le top 3 des séries préférées des Français. Pour résumer la série, Prison Break, c'est donc une histoire d'évasion. Michael Scofield, le héros de la série, va volontairement se faire incarcérer dans le pénitencier de Fox River, où son frère Lincoln est condamné à mort pour avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis. Sauf que, plot twist, Lincoln est en réalité victime d'un complot qu'il a fait accuser à tort, et Michael, convaincu de son innocence, va tenter de le faire évader avant son exécution. Durant toute la série, les personnages traversent des milieux différents. Mais je vais en général m'arrêter uniquement sur la première saison qui se déroule du coup à Fox River. C'est vrai que tous les autres environnements sont aussi très intéressants à analyser, mais je trouve qu'un centre pénitentiaire aux États-Unis, c'est le meilleur exemple pour illustrer mes propos. Mais avant toute chose, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment et pourquoi est née la prison ? Bon, moi je n'y connais rien en droit, et même si j'adore l'histoire, ma spécialité, ça reste quand même la socio. Du coup, je vais vous raconter la naissance de la prison selon le point de vue d'un très grand sociologue, Michel Foucault. Foucault nous raconte que, sous l'Ancien Régime, les crimes étaient punis par des châtiments corporels, qu'on infligeait la plupart du temps publiquement. L'idée, c'était de marquer le corps des criminels de manière bien visible et quasi permanente, comme un symbole du pouvoir punitif des souverains, qui avaient en ce temps-là un droit de vie ou de mort sur leur sujet. Puis les humanistes y sont arrivés et se sont dit que répondre à la violence par la violence, bah, c'était pas forcément l'idéal. Alors on a interdit la violence physique comme moyen de punition. Jusqu'au XVIIIe siècle, il faut savoir qu'on était plutôt tolérant envers certaines pratiques de transgression et de détournement de la loi que Foucault appelle des illégalismes. Ces illégalismes permettaient un certain équilibre social, dans le sens où les différentes classes sociales se mettaient d'accord de temps en temps pour contourner la loi, quand ils jugeaient que certains décrets étaient trop contraignants. Ça créait une espèce de complicité pour passer outre la légalité et permettre un meilleur fonctionnement de la société. Par exemple, on n'allait pas chasser certains paysans qui ne payaient pas leurs impôts. On tolérait les petits vols si ça permettait d'atténuer la misère, et dans les villes, les commerçants et les artisans s'arrangeaient entre eux pour contourner certains règlements qui pouvaient être contraignants pour les affaires. Mais avec l'augmentation de la population et l'enrichissement de la bourgeoisie qui prend peu à peu le monopole du commerce et de l'économie, il va y avoir un basculement dans la perception des illégalismes. C'est le début du capitalisme industriel, on commence à stocker et accumuler des biens, on investit dans des machines assez coûteuses dans les usines, et dès lors, le vol y prend une dimension plus dangereuse. Si de base les illégalismes s'attaquaient à des droits et certains abus de pouvoir, au XIXe siècle, on considère qu'ils s'attaquent directement à des biens, à des propriétés privées, aux richesses personnelles des individus. Et à ce moment-là, il y a une fracture. La classe sociale bourgeoise devient propriétaire et, craignant pour ses biens, dénonce les illégalismes populaires comme le vol pour se protéger. Ce qui va se passer ensuite, vous l'avez sûrement deviné. On vient de créer la délinquance. La délinquance, elle va être rattachée à des valeurs dangereuses, hostiles, nocives, anormales. Il faut la considérer comme un virus qui viendrait infecter la société et la rendre malade. Et qu'est-ce qu'on fait des gens malades ? Eh bien, on les enferme pour pas qu'ils contaminent les autres et que la maladie se répande. Bon, au final, je me rends compte que c'est un peu de mauvais goût de dire ça en plein milieu d'une pandémie mondiale, mais au moins, vous pouvez mieux comprendre le principe. L'enfermement des délinquants à la base, c'était pour éviter qu'ils dérèglent la société. Sauf qu'en fait, un jour, on s'est rendu compte qu'à force d'enfermer des gens, y avait plus de main-d'œuvre et que c'était pas très productif pour la société. Et à ce moment-là, on a eu une idée de génie. Et si, au lieu de juste enfermer les gens, on profitait de cet enfermement pour les remodeler, pour essayer d'en faire des individus utiles à la société ? On a la chance d'avoir des individus qui sont enfermés dans des structures créées, organisées, gérées par l'État. Alors, pourquoi pas essayer de les rééduquer selon les valeurs de l'État ? Et d'ailleurs, il y a un terme pour définir ce genre de structure. C'est un sociologue, Erving Goffman, qui l'a introduit pour parler des hôpitaux psychiatriques. Mais on peut aussi étendre ce concept à d'autres types d'institutions, comme les casernes, les monastères ou encore les prisons. On va appeler ce type de structure une institution totale. Une institution totale. C'est un lieu de résidence et de travail, où un grand nombre d'individus placés dans la même situation et coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse, dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées, puisqu'il y a une prise en charge totale de tous les besoins. La prison, c'est une institution totale, dans le sens où c'est un espace-temps indépendant, coupé du monde extérieur, organisé bureaucratiquement, à l'intérieur duquel des individus vivent au rythme imposé par l'institution. Ce qui en fait un laboratoire idéal pour y inculquer de la discipline.
Bienvenue à Prison Lande, Geldange.
Et comment est-ce qu'on inculque de la discipline ? Eh bien, par le contrôle et la surveillance. Et là, je vais faire appel à de vieux souvenirs pour ceux d'entre vous qui ont regardé Prison Break au moment de sa sortie. Mais est-ce que vous vous souvenez sur quel plan s'ouvre le générique et le début de la plupart des épisodes ? C'est une vue aérienne de la prison qui met au centre du plan le Mirador. Cette tour de contrôle des gardiens, c'est le cœur de la prison. L'architecture carcérale est pensée de manière à optimiser le plus possible la surveillance. Et en plaçant une tour de surveillance au milieu de la structure de la prison, on fait en sorte que les gardiens puissent tout voir en permanence, sans pour autant être vus en retour. Et on appelle ce modèle le panoptique. Le but, c'est de donner aux prisonniers l'impression d'être regardés H24 pour les dissuader de faire quoi que ce soit. Cette surveillance permanente, couplée au fait que toutes les activités des prisonniers vont être rigoureusement chronométrées, un temps pour manger, un temps pour prendre l'air, un temps pour pisser, ça va permettre de ne laisser aucune place au hasard. Parce que tout ce qui ne peut pas être contrôlé est potentiellement un danger. Et vous savez ce que je trouve vraiment drôle dans Prison Break ? C'est que toute la série repose sur ce contrôle minutieux du temps et de l'espace, mais que ça va être utilisé à l'encontre de la prison. Prison Break, c'est une histoire d'évasion, mais c'est surtout une histoire de connaissance des mécanismes de la prison. Pour s'évader, Michael, il se tatoue sur le corps le plan détaillé de la prison. Il en connaît chaque recoin, chaque installation, des dates de fabrication des serrures au manuel d'installation des tuyauteries. Il a cerné l'emploi du temps de la prison, les horaires des rondes des gardiens, les jours de congé et le type de bouffe qui va être distribué. Il connaît son entreprise par cœur. On dit souvent que si on parvient à contrôler chaque petite parcelle de notre environnement, il n'y aura aucun risque que quelque chose nous échappe. Et si, au contraire, en tentant à tout prix d'ordonner précisément les choses, on ne fait que donner les moyens faciles de les contourner ? Le sociologue Erving Goffman propose le concept d'adaptation pour parler du comportement des reclus dans des institutions totales. D'un côté, on va avoir les adaptations primaires, qui vont être les modalités par lesquelles les reclus respectent les consignes et les règles de l'institution. Et d'un autre côté, on va avoir les adaptations secondaires, qui vont plutôt être des subterfuges, par lesquels les reclus vont créer des espaces de liberté, une vie clandestine à l'intérieur de l'institution, où ils vont créer une vie sociale, des complicités, une résistance aux règles, des moments où ils vont tout simplement échapper au contrôle. Au final, vouloir à tout prix inculquer une discipline de fer pour prévenir les possibles dangers, en assumant que ce sera faisable si on arrive à tout contrôler, c'est un principe un peu caduc. On présume qu'en montrant aux reclus ce qu'on attend d'eux, qu'on leur attribue leur rôle exact dans leur institution, on arrivera à en faire des rouages parfaits d'une machine qu'on a prédéfinie à l'avance. Mais en réalité, c'est un leurre. Il y aura toujours une brèche de liberté à travers laquelle les individus trouveront un moyen d'échapper à leur rôle. Prétendre que la prison sert à réhabiliter les détenus pour en faire de bons citoyens et pouvoir leur rendre leur vie en société, c'est aussi un leurre quelque part. Dès les premiers temps du système des prisons, on a constaté qu'il ne produisait pas les résultats espérés. Au contraire, plus un individu restait en prison, plus il y avait de récidives, et moins on constatait de rééducation. Les moyens qu'on investissait dans les prisons partaient plus dans la surveillance de ces éléments dangereux que dans leur réinsertion à l'extérieur. Mais du coup, la grande question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a gardé les prisons alors qu'on sait pertinemment qu'elles ne produisent pas de bons résultats ? Réponse après la pause musicale.
In the street, can't compete with me. Looking hard, little gangster making me look over my shoulder. Up by the Range Rover with the bulletproof glass. Had to get that hook up, some things in my past. Gonna catch up to me, man, I might not last. They're making suckers bleed, lean on the window and blast. Don't try to sneak up, man, I think too fast. I hope they come undercover, man, I'll say self-defense. Looking at my life, I can't claim innocence. It came and it went, much money been spent. Many wigs been bent back and twisted with the lethal. Time's up, game over, ain't no sequel. Ain't no such thing as evil, it's just do or die. Gangster, hustler, a piece of the pie.
For the brothers at my side, I'd be willing to die. Getting high all the time, I'd be willing to die. We keep riding.
addicts, move away like an addict. Have my boys posted up, stoop one and two. If some chickens walk by, scoop two or one. Take them out the back and then show them my gun. Piece around my neck, make you blind from the sun. What kind of high you need? I'll let you try some, son. So many enemies, anyone could be one. Come on and try, if you wanna die, I'll make you wonder why. I'll ride if I wanna ride, kill you by the bedside. Don't you see them dead rides? See the one that make the lead fly down at midnight. Sneaking up on suckers if you ain't got the cash right. Say something, son, beat that ass with the flashlight. Run, sucker, run, I'm the one with ammunition. Dumb sucker, dumb, you got the wrong intuition.
For the brothers at my side, I be willing to die. Getting high all the time, to die. We keep riding the streets, me and my posse in crime. For what's left of my life, I'd be willing to die. For what's left of my life, I'd be willing to die.
Come on and try.
Yeah, yeah, what's up?
If you wanna die,
make you say what's up.
Make you wonder why.
Make you wonder why.
I'll ride if I wanna ride.
Yeah, you know that's right.
Kill you by the bedside.
Yeah, sneak up.
Don't you see I'm dead right?
Yeah, I make you see
I'm the one that make the lead fly. Down at midnight.
What?
Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier 102.2 et vous écoutez la suite du feuilleton sociologique. Dans Prison Break, il y a un personnage qui selon moi est un peu sous-estimé. C'est le directeur de la prison, Henry Pop. Il apparaît pas aussi souvent que les autres personnages et on a tendance à se rappeler de lui uniquement comme quelqu'un que Michael a manipulé pour son plan d'évasion. Et pourtant, je pense que c'est de lui que tout a démarré. Henry Pop, c'est un gars qui aime sa prison et qui aime son métier. Il croit fermement au système pénitentiaire et aux valeurs de rééducation. Il va mettre en place tout un programme de réhabilitation des prisonniers pour en faire des membres actifs de la société, en créant notamment un groupe de travail pénitentiaire et des programmes éducatifs qui permettent aux détenus de passer des diplômes. Le problème, c'est qu'avec tout le travail administratif qu'il doit faire et les comptes qu'il doit rendre à sa hiérarchie, il n'a pas le temps de s'en occuper lui-même. Alors, il en délègue la responsabilité au capitaine des surveillants, Bellick. Sauf que Bellick, il ne croit pas en la réhabilitation. Pour lui, la prison n'a qu'une seule fonction, la punition. Et c'est là que ça coince. C'est que Bellick, il va vouloir faire sa loi dans la prison et exercer ses fonctions comme il l'entend, selon ses propres valeurs. Mais comme il va avoir des comptes à rendre à son directeur, il n'est pas totalement maître de ses décisions et ça va le frustrer. Et de cette frustration va naître de la colère et un sentiment d'humiliation. En soi, c'est un phénomène assez courant. Les surveillants de prison, ils subissent une double situation. Ils sont dominants sur le plan disciplinaire, c'est-à-dire que face à un prisonnier, ils vont être une autorité légitime. Mais par contre, ils vont être dominés sur le plan hiérarchique, puisqu'ils sont au niveau le plus bas de l'autorité hiérarchique. Et le personnage de Bellick y correspond parfaitement à cette description. Il voulait pas être surveillant de prison, il voulait être flic. Mais il a raté 5 fois le concours de police, alors il a revu ses espérances à la baisse et il a accepté ce poste de gardien. Et d'ailleurs, les prisonniers n'hésitent pas à aller lui rappeler.
Eh hey Bellick, ouais. J'en ai une bonne pour toi. Ouais, comment on appelle un petit merdeux qui s'est fait recaler à l'examen des keufs et qui se retrouve à gagner moins qu'un facteur? Un maton.
Il y a une contrainte qui pèse sur le métier de surveillant. C'est une contradiction entre les fins et les moyens. On leur demande de maintenir les détenus au calme et d'éviter les débordements. Sauf que pour ce faire, on leur dit d'éviter toute relation avec les détenus. Du coup, soit ils appliquent le règlement à la lettre, et dans ce cas, les détenus se révoltent face à l'oppression, soit ils ne l'appliquent pas strictement, et ça va, Mais il suffit qu'il y ait un débordement pour qu'il se retrouve tout seul face au chaos, puisque l'administration va se désolidariser du problème. Il y a vraiment une jauge du contrôle qu'il faut à tout prix maintenir en prison. S'il y a trop de contrôle, la vie est insupportable. Mais si on laisse trop de liberté, les plus forts prendront forcément le dessus sur les plus faibles. Le maintien de la paix sociale en prison, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Et la plupart du temps, cet équilibre, on va le trouver par des biais informels. Des échanges et des accords entre des prisonniers et des surveillants, des faveurs, des pots de bain, des pots de vin. Ce genre d'accord, normalement, il repose sur la confiance mutuelle. Sauf qu'en prison, la confiance, ça n'existe pas. À chaque fois qu'on passe un accord, on a juste à espérer qu'il soit aussi respecté par l'autre. Spoiler, la plupart du temps, c'est pas respecté. Au final, ces accords ne sont qu'un moyen pour les plus forts d'obtenir des faveurs de la part des plus faibles. En fait, la logique du droit en prison, elle est la devise inverse du droit en société. Si en société, tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé, en prison, tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit. Et cette devise, elle entraîne des abus de la part des dominants. Si on prend Bellick par exemple. Bellick, c'est le roi des promesses non tenues. Il va avoir tendance à passer des marchés avec les détenus pour obtenir des informations en échange de leur protection. Sauf que, et ce n'est pas moi qui le dis mais un personnage de la série, Bellick est aussi tordu que la scoliose. C'est un gardien corrompu qui ne tient jamais ses promesses et qui se sert de l'état de vulnérabilité des détenus les plus faibles pour obtenir ce qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est bien connu dans la prison que de tous les gangs, celui des gardiens, c'est le plus dangereux.
Les diables du poker ont squatté le panier. Les Norteños tiennent les gradins. Les Woods les altères et les bars. Les matons tiennent le reste. Tu peux me croire, un de tous les gangs qu'il y a ici, c'est celui des gardiens qui est le plus pourri. La seule différence entre eux et nous, c'est leur petit insigne.
L'évasion de nos héros dépend aussi de cet équilibre des faveurs. Tout le plan de Michael repose sur des accords qu'il va passer un peu avec tout le monde, et tout le suspense de la série va tenir sur le respect ou non de ses promesses. La trame narrative de la série, elle va pas arrêter de changer, puisqu'elle dépend du bon vouloir des détenus impliqués dans le plan et de l'état des relations qu'ils entretiennent. Un peu à l'image du parcours que subit un prisonnier à l'intérieur de l'institution. Un nouveau prisonnier qui débarque dans cet univers, il va devoir se familiariser avec ses codes, ses valeurs, son fonctionnement. Il va devoir passer une sorte de rite d'initiation, d'apprentissage de la culture de la prison. Parce que si la prison, c'est une institution totale, elle a sa propre culture. Un des premiers chercheurs en sciences sociales à avoir analysé l'institution carcérale dans les années 30 va se rendre compte que la prison dans laquelle il faisait son enquête, elle présente beaucoup de caractéristiques communes à toutes les prisons américaines, que ce soit de la composition de la population ou de la constitution des groupes sociaux. Et il va développer un concept pour définir cette culture de la prison. La prisonniérisation. La prisonniérisation, c'est le processus d'assimilation des valeurs de l'institution, qui va se manifester au travers des modes de vie qui lui sont propres. Plus l'enfermement dure, plus le détenu va incorporer des habitudes spécifiques au mode de vie carcéral, comme le fait de faire ses besoins devant ses témoins, ne plus avoir de porte, dormir la lumière allumée et protéger sa nourriture. Au-delà de ces habitudes, il y a aussi des comportements plus internes qui vont être assimilés, comme le fait de ne prendre aucune initiative, vivre dans la peur ou encore la paranoïa. C'est un des phénomènes qui va rendre la réinsertion des détenus plus compliquée, puisque même après leur libération, ils vont avoir du mal à se débarrasser de ces comportements. Ces mauvaises habitudes, elles peuvent handicaper les anciens détenus, surtout quand on pense qu'ils doivent en plus gérer le traumatisme de la prison. C'est en ça qu'on peut considérer que l'idée de penser la prison comme un outil de réhabilitation qui nettoie les individus de leurs péchés et en fait de parfaits citoyens, elle n'est pas vraiment valable. La prison, c'est pas le Club Med, c'est pas un groupe de soutien ou une formation à la citoyenneté. Le problème, quand on continue de prétendre que la fonction de réhabilitation est celle de la prison, c'est qu'on éloigne le débat de son sacre essentiel et constructif. Si on assumait pleinement la seule fonction punitive de la prison, la question pourrait se recentrer sur le débat même de la punition, de ses degrés, sa personnalisation, sa compréhension, son utilité. Et on serait plus à même de donner du crédit aux diverses critiques qui visent les erreurs de jugement. Pour bien comprendre ce que j'entends par là, laissez-moi vous introduire un de mes personnages préférés de Prison Break. David Apelskis, dit l'acrobate ou twinner en VO. David, c'est un jeune pickpocket d'une vingtaine d'années. Plutôt doué de ses mains, il vivait grâce à des petits vols, histoire de se maintenir et puis aussi parce que ça le faisait bien marrer. Sauf qu'un jour, en volant des cartes de baseball au père d'un de ses potes, on découvre qu'il détient une carte de collection, qui vaut 300 000 dollars. Alors, on l'inculpe pour vol qualifié et on le condamne à 5 ans dans une prison de haute sécurité. Dès son arrivée à Fox River, David il a du mal à s'intégrer. Il ne correspond à aucun des gangs déjà établis, il assimile pas rapidement les codes de la prison, il se fait un peu trop voir. Se retrouve au milieu de guerres raciales, des groupes suprémacistes et, comme il a belle gueule, il devient rapidement la cible des prédateurs sexuels. David ne comprend pas vraiment ce qu'il fait là. Alors, pour essayer de sauver un peu sa peau, bah, il accepte de devenir informateur pour Bellic, en échange de quelques hamburgers. Sauf que, et on le sait maintenant, Bellic, il n'est pas du genre à tenir ses promesses. Et quand il voit que David ne fait pas super bien son boulot d'informateur, il va l'enfermer dans une cellule avec un violeur, qui abuse de lui. David y comprend vite que personne ne va venir l'aider. Alors il décide de se défendre et il coupe les parties intimes de son agresseur. De base, il avait juste volé une carte. Et il ressort de son séjour avec des pulsions meurtrières, un sentiment d'injustice et des traumatismes à la fois physiques et psychiques. Au final, tout ce qu'il aura appris de son expérience carcérale, ce sera la violence. Il est entré en prison en tant que jeune délinquant et il en ressort comme un criminel. Bon, bien évidemment, ce n'est que de la fiction. Mais cette capacité de la prison à produire de la délinquance, elle n'est pas fictionnelle. Finalement, ça rejoint un peu ce que pensait notre ami Foucault. Plus longtemps un individu reste en prison, moins il est rééduqué et plus il devient délinquant. Tout à l'heure, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a gardé le modèle de la prison, même si on savait qu'elle ne rééduquait pas. Foucault, il en a sa petite idée. Selon lui, si la prison est restée, c'est justement parce qu'elle produit de la délinquance. Et que cette délinquance, elle a une fonction, une utilité politique. Plus il y aura de délinquants, plus il y aura de crimes, et plus il y aura de peur dans la population. Et plus il y aura de peur dans la population, plus acceptable sera le système de contrôle étatique et policier. Ce danger interne et permanent, c'est la clé de l'acceptation d'un système de contrôle. Alors, encore une fois, je le redis, je me désolidarise de tout jugement sur ces réflexions. Cependant, il faut leur accorder leur intérêt en ce qui concerne la manière dont on approche ce sujet. Les premières investigations sociologiques sur la prison tendaient à analyser ce qui se passait à l'intérieur. Ça englobait beaucoup de sujets comme la vie quotidienne, le travail, la drogue, la sexualité, les liens familiaux ou l'intimité. Puis dans les années 70, notamment grâce à l'impulsion de Foucault en France, on a commencé à s'intéresser à la prison en la considérant comme un objet qui permet une analyse de la société qui la crée, l'organise et la tolère. En gros, quel rôle la société donne à la prison? Et on ne peut pas nier que le système carcéral fait partie intégrante de notre imaginaire et qu'il donne lieu à ses propres fantasmes. L'univers carcéral est une foire aux stéréotypes. N'importe qui peut avoir l'impression d'en avoir fait l'expérience sans même y avoir mis les pieds. Comme son voisin l'hôpital psychiatrique, il est surreprésenté dans tous les pans de l'imaginaire collectif. Cette pseudo-connaissance de la prison et la tendance à rendre les débats qui la concernent publics, puisqu'on a tous une idée plus ou moins lointaine de son fonctionnement et de ce qu'elle représente. Et c'est un territoire très vaste qui offre plein d'opportunités à la fiction. Rien que dans Prison Break, je suis incapable de citer tous les domaines qui sont abordés. Il y a de la romance, de la précarité, des drames familiaux, du racisme, de la religion, de la mode même, mais aussi de la géopolitique, du complot, et surtout bien sûr, le grand fantasme de la cavale et de l'évasion. En soi, je pense qu'il me faudrait un podcast entier consacré uniquement à Prison Break pour tout aborder. Mais si je dois finir sur un point essentiel qui fait que je chéris particulièrement cette série, c'est qu'elle a réussi à rendre sa part d'humanité et d'individualité à ses prisonniers, sans pour autant tenter de glorifier leurs méfaits. Dans Prison Break, la frontière entre le bien et le mal, le justifiable et l'impardonnable, elle est sacrément bien jaugée. La narration ne se fait jamais porteuse de morale, et quelque part, elle joue un peu le rôle qu'on devrait tous assumer dans ce débat, celui de l'indulgence. En attendant, je vous souhaite un bon revisionnage et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Feuilleton Sociologique.